Bonjour à tous et bienvenue dans l'ADEMAT, l'émission de votre nouvelle web radio, une émission consacrée aux jeux vidéo. Alors pour ce qui est des présentations, je me prénomme Mathieu et mon petit camarade c'est Philippe.
Bonsoir.
Précisons simplement que cette émission est destinée à être évolutive et donc que des ajouts devraient être apportés dans les prochaines émissions, que ce soit des personnes, des invités ou même de nouvelles rubriques. Si on a décidé de faire une première émission sur un thème très précis, à savoir le prix des jeux vidéo, c'est à la fois pour nous roder et introduire le média lui-même. C'est une façon de briser en quelque sorte un mythe, c'est-à-dire que le jeu vidéo est destiné plutôt aux riches, est toujours cher, est destiné plutôt aux jeunes, loin d'être accessible, etc. Et donc on a voulu, pour introduire cette émission, aussi introduire le jeu vidéo auprès du grand public, on va dire. Et on va commencer par essayer de parler d'un mythe ou pas. C'est est-ce que les jeux vidéo sont plus chers en 2015? Donc t'en penserais quoi toi Philippe?
Eh ben ça dépend. Ça dépend où tu vas, où tu l'achètes. Ça dépend des boutiques et puis des grandes surfaces.
C'est exactement ça. Alors on peut même rajouter quelques chiffres. Si on se réfère par exemple à un calculateur d'inflation sur le site de l'INSEE, on peut se rendre compte qu'un jeu PlayStation qui coûtait 399 francs en 1999, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'euro, etc., coûterait environ 78 euros aujourd'hui en prenant compte de l'inflation. Le jeu donc est en quelque sorte déjà devenu plus accessible. Et en plus de ça, il faut savoir que les offres se multiplient. On peut prendre des exemples des grandes surfaces, etc., qui par exemple permettent d'acheter des jeux au moment de leur sortie, c'est-à-dire dans un court laps de temps de 2-3 jours, à des prix réduits qui concurrencent ceux d'Internet.
Mais si je puis me permettre, il y a aussi donc la différence entre les prix en grande surface et en boutique spécialisée.
Et oui.
Et puis pas seulement sur la sortie du jeu, je trouve, mais même sur la continuité.
Exactement, parce qu'on peut voir que les prix dans les boutiques spécialisées, notamment l'enseigne la plus connue, même voir la seule enseigne du secteur, sont encore assez élevés, puisque par rapport à un prix de lancement à 50 euros à Carrefour pendant 3-4 jours, le prix en boutique reste souvent à 69 euros, ce qui fait quand même une marge de 19 euros, ce qui est énorme. Ça en fait du beefsteak et ça en fait même du multimédia ou autre.
C'est pareil, par exemple, moi, il n'y a pas longtemps, là, j'ai acheté un Amiibo, je voulais acheter à Carrefour, l'Amiibo que je voulais n'était pas à Carrefour, et je suis allé à Micromania, il était 2-3 euros plus cher.
Exactement.
Bon, c'est pas grand-chose de 3
alors
euros plus
Amiibo,
cher.
On va juste préciser que c'est des figurines compatibles avec certains jeux, des figurines faites par Nintendo, pour les consoles Nintendo, ouais. Et qui permettent d'accéder à des contenus sur tous les jeux. Alors on y reviendra un peu plus précisément dans la deuxième partie de l'émission. Mais effectivement, il y a au moins 2 euros de différence pour le prix d'un Amiibo entre ce qui peut se pratiquer sur Internet ou en grande surface par rapport à ce qui se pratique dans d'autres boutiques spécialisées ou les boutiques de jouets également, j'ai remarqué ça. Alors pour revenir au prix d'Internet par exemple, on peut aussi noter quelques avantages. Alors des avantages pas forcément toujours connus, parce que je sais qu'on avait préparé cette émission, tu me disais que tu n'avais pas pris conscience de ça.
Non.
Mais quand on va sur des sites Internet, les sites les plus connus, etc., on se rend compte qu'en précommandant un jeu, on peut avoir un prix préférentiel qui s'adapte jusqu'à la sortie du jeu, c'est-à-dire que si vous précommandez un jeu 3 mois avant, vous pouvez voir le prix baisser automatiquement si le prix du jeu baisse dans la base de données du site, ce qui fait qu'on peut arriver avec des offres vraiment intéressantes. Comme je disais à Philippe la dernière fois, j'avais précommandé Xenoblade Chronicle X sur Wii U, en version collector, qui m'est revenu finalement, je l'avais précommandé à 59 euros, durant la phase de précommande, le jeu avait baissé jusqu'à 51 euros, du coup je l'ai payé 51 euros, alors que le jour de sa sortie, le jeu était à 89 euros, ce qui fait quand même une sacrée réduction d'une quarantaine d'euros, et donc c'est toujours bon à savoir. Alors on va peut-être vous parler aussi des petites astuces comme ça pendant les minutes et l'heure qui vient.
Mais voilà, moi c'est aussi ça le problème, c'est pour ça que je ne vais pas forcément précommander sur Internet, c'est que c'est souvent des éditions collector. Et dans ma tête, et puis même dans les faits, les éditions collector coûtent généralement 20 balles de plus. Et moi, je n'ai pas envie de payer 20 euros de plus pour une figurine ou quoi que ce soit. Une édition qui, je trouve que selon moi, c'est pas vraiment, ça ne vaut pas le coup, quoi. Et j'ai pas l'impression, alors peut-être parce que je ne cherche pas assez, que les éditions standards soient vraiment moins chères. Mais c'est parce que j'ai peut-être pas assez d'expérience dans ce domaine de la précommande.
Non mais déjà c'est exactement ça. Et puis comme tu le soulignes, quand on paye une version collector à 51€ et qu'on voit que en boutique spécialisée par exemple ou en prix recommandé par les éditeurs, le jeu coûte 69€ en version standard, on peut effectivement se dire qu'il y a un gros problème, et le même problème se trouve d'ailleurs sur le marché du dématérialisé. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est les boutiques en ligne. C'est les stores sur les consoles et sur PC. Alors sur PC, il y a Steam, entre autres, d'autres trucs beaucoup moins connus et beaucoup moins populaires. Mais sur les consoles, c'est le PlayStation Network et le Xbox Live. Et on peut acheter des jeux donc directement sur sa console de chez soi. Et on se rend souvent compte, hélas, que les prix des jeux chez soi, alors Steam c'est un peu différent, mais sur console en tout cas, sont souvent plus chers parfois que des versions boîte qu'on peut trouver en magasin.
Oui, c'est scandaleux.
Et c'est assez scandaleux comme tu dis, d'autant que la version est dématérialisée et donc on ne peut pas la revendre, on ne peut pas faire une plus-value. Si le jeu ne nous plaît pas, on peut pas s'en débarrasser. Et donc c'est des choses à savoir. Mais bon, d'ailleurs pour continuer dans ce créneau du jeu dématérialisé, on peut aussi parler des jeux indépendants qui sont arrivés en 2005 et qui, comme tu peux le dire, sont quand même globalement moins chers.
Ah oui, c'est bien moins cher, mais enfin moi je suis beaucoup sur Steam, donc la plateforme de téléchargement sur PC, et j'ai remarqué au fil des années, ça fait des années maintenant, ça va faire 7 ans que je suis sur Steam et que j'achète des jeux régulièrement, que les prix des jeux indés ont beaucoup, beaucoup augmenté. C'est-à-dire que bon, y a plusieurs catégories de jeux indés, et ceux qui sont bien développés par des équipes un peu plus grosses ou plutôt moyennes sont vraiment ont commencé vers une vingtaine d'euros, et puis plus les années passent, on passe à 20, 22, 25, 29, 30, enfin dans 2 ans on sera à 35 pour un jeu indé qui n'est pas forcément qui peut être bien, mais qui n'est pas forcément terminé, puisque maintenant en plus c'est la grande mode de l'early access, d'avoir accès au jeu avant sa sortie et en version alpha. Donc finalement on peut avoir...
Donc c'est des versions d'essai pour résumer.
Ouais. Et on a souvent des jeux finalement un peu médiocres, quoi. Et donc je trouve que le fait d'augmenter les prix tous les ans, c'est peut-être un peu...
Et c'est marrant ce que tu dis, parce qu'en plus c'est d'autant plus vrai que si je me souviens bien, quand ça arrivait quand le vrai boom du jeu indépendant est arrivé au milieu des années 2000, on va dire, je me souviens que je crois que presque tous les jeux étaient vendus 10€ sur les Xbox Live, etc. Et que maintenant, effectivement, on trouve à la fois plus de jeux indépendants à des prix de 25, 30€, voire même, c'est rare, mais 40€, 39€. Et aussi, on peut parler aussi du prix de certains jeux triple A, c'est-à-dire des gros jeux, des gros blockbusters, qui parfois arrivent eux-mêmes en prix réduit.
Ouais.
Alors on peut parler, bon, sans parler de blockbusters, on peut parler aussi des jeux importés du Japon, des jeux de niche. Je pense à Nobunaga's Ambition, qui est sorti il y a quelques mois, et qui est un jeu de stratégie à l'ère féodale japonaise, etc. Et qui était vendu, quand il sort, il est vendu 49€. Et du coup, ça devient compliqué de différencier un jeu produit par une grosse boîte à 49€ d'un jeu indépendant à 30€, etc. Et même des jeux de très grosse licence. Je pense notamment à Ratchet & Clank. J'ai vu qu'il avait été annoncé à un prix de 35€ ou une petite quarantaine d'euros, je crois.
Ah ouais.
Qui est une très grosse licence du jeu de plateforme. Apparaître sur la PlayStation 4. Et donc, on peut dire qu'il y a une grosse homogénéisation des prix, mais heureusement, il reste encore des petites joyeusetés comme les soldes. Notamment, toi, bon, tu peux nous parler des soldes Steam, qui sont devenus un vrai...
Alors, j'ai l'impression que c'est un peu moins... comment dire,
bénéfique.
Non, c'est un peu moins bénéfique d'acheter en solde Steam parce qu'il y en a tous les deux mois, des soldes Steam.
Avant, c'est vrai que j'ai cette impression.
Non, c'est c'est complètement ça. Hein. Ils ont fait les soldes d'automne en novembre, ils ont fait un mois plus tard, il y avait les soldes de Noël.
Oui, mais quand on arrive, en plus, quand moi j'ai des contacts dans le jeu vidéo, sur les réseaux sociaux, etc. Et ils sont souvent des rédacteurs et ainsi de suite. Et ils sont souvent à fond sur les soldes de Steam. Et effectivement, j'ai l'impression de voir des messages tous les 2-3 mois en disant c'est les soldes de Steam, c'est les soldes de Steam.
Ah non, mais c'est exactement ça. Et j'ai l'impression que j'ai plus rien à acheter, moi.
Donc en tant que qu'acheteur, est-ce que ça vaut encore le coup?
Je pense que ça vaut le coup.
Est-ce qu'il y a des grosses ristournes
il peut y avoir des très grosses ristournes. Il faut toujours attendre les soldes. Même quand il y a des jeux qui sont sortis récemment, ils vont peut-être être à moins 25, mais c'est déjà ça de gagner. Ça vaut quand même le coup. Après, je trouve que c'est un peu trop régulier pour moi et ça n'a plus trop d'intérêt. Quoi. Le fait d'attendre aussi les soldes, de se dire ah, il y a des soldes à Noël, ah, il y a des soldes en été. Et c'est tout. Ça, un peu, je trouve que moi, ça me galvanisait un petit peu.
Non, je suis d'accord avec toi. Et puis en plus, même sur console, moi qui joue plutôt sur console, pour le coup, c'est dans ce sens-là où on se complète.
Ouais.
J'ai remarqué que les soldes avaient pris une plus grosse importance ces dernières années. Et même sur console, il y a les soldes d'automne, il y a les soldes d'hiver, etc. Il y a des bons plans quotidiens. C'est pas forcément le truc le plus... il y a des moments où il y a des offres qui ne valent pas forcément le coup, mais il y a des offres qui restent très intéressantes, et notamment pour les gros jeux qui viennent sortir, parfois on peut se rendre compte que je pense à Rise of the Tomb Raider qui est sorti il y a deux mois,
ouais.
Et je pense à lui parce que je l'avais acheté justement à prix préférentiel en grande surface ou sur internet, je ne me souviens plus, à une cinquantaine d'euros, et c'est un des rares jeux que j'ai acheté dernièrement. Et pour une fois, rapidement après, 2-3 semaines après, il était soldé à moins 33% sur Internet, ce qui lui permettait justement de s'aligner sur le prix de 45-50 euros du prix de lancement du jeu en grande surface ou du prix auquel il est disponible sur Internet. Alors c'est une fausse solde, on va dire, parce que finalement, ça fait juste rééquilibrer les débats entre Internet et le marché du dématérialisé, même sur le marché tout court. Oui. Et à ça, on peut aussi ajouter, alors ça c'est spécifique aux consoles, les systèmes d'abonnement.
Oui.
Alors pour ceux qui ne savent pas, sur console, maintenant il faut avoir un abonnement pour en jouer en ligne, et pour appâter les joueurs, les constructeurs, c'est-à-dire Microsoft, Sony, sur Nintendo c'est pas pareil, puisque sur Nintendo on joue en ligne gratuitement, proposent des abonnements avec des jeux gratuits chaque mois. Donc chaque mois on a par exemple 2 jeux gratuits ou 2-3 jeux gratuits, ce qui permet finalement pour une soixantaine d'euros par an de rentabiliser son abonnement en jouant à moindre coût. Et aussi d'avoir accès justement au mode en ligne. C'est toujours une bonne chose, sachant que les jeux, évidemment, la qualité des jeux peut varier. Alors il y a des moments où on tombe sur des jeux plutôt sympas comme l'ancien Tomb Raider et tout. C'est en général des jeux qui ont 2 ans, etc. Mais qui restent assez marrants. Et d'ailleurs, en ce moment, il y a Killer Instinct, la saison 1, dont on parlera plus tard dans la deuxième partie de l'émission.
Toujours là ?
Comment ?
En ce moment, ça y est toujours ?
Ça y est toujours.
D'accord.
Ça y est toujours. Je vois que ça t'intéresse. Comme
ouais,
quoi,
bah...
pour quelqu'un qui n'était pas motivé il y a 2 secondes.
C'est non, mais je ne suis pas très fan de cette façon de faire, moi.
On en parlera tout à l'heure.
Donner les jeux gratuitement, enfin, contre un abonnement, je ne sais pas, je valide pas trop.
Bah, c'est mieux que rien. Parce que je te rappelle qu'au début, l'abonnement était payant et on n'avait rien du tout. Et
j'ai l'impression. C'est un peu un faux cadeau, quoi. C'est mon impression. Mais après,
ça peut être le cas. Ouais. Surtout qu'avant, sur Xbox 360, les jeux, on les garde définitivement. Alors que c'est vrai que sur Xbox One ou PlayStation 4, il faut maintenir son abonnement.
Ouais, c'est ça.
Ou alors se réabonner plus tard pour re-avoir accès à ces jeux. Donc effectivement, c'est un peu tenir le joueur en laisse. Mais par exemple, mais du coup, si on a une 360 et deux consoles d'un même constructeur, on peut justement doubler le nombre de jeux.
C'est aussi sur PlayStation ?
Je crois que c'est aussi sur PlayStation, à travers le PlayStation Plus, il y a le même système, etc. Donc on va faire une petite pause en écoutant London Calling des Clash, et on se retrouve juste après.
À tout de suite.
The crunch of thing, the ice age is coming, the sun's zooming in, meltdown expected, the wheat is good in, engines stop running, but I have no fear, cause London is drowning out. Live by the river, to the imitation zone, forget it brother, you can go it alone. London calling, to the zombies of death, quit holding out. Draw another breath. London calling, and I don't wanna shout, but while we were talking I saw you nodding out. London calling, see we ain't got no hide, except for that one with the yellowy eyes. The ice age is coming, the sun's zooming in, engines stuck on it, the wheat is going through a nuclear error, but I have no fear, cause London is drowning out.
C'était London Calling des Clash. On se retrouve donc pour la deuxième partie de l'émission pour parler cette fois-ci des DLC. Alors les DLC, pour ceux qui ne le savent pas, c'est des contenus téléchargeables, des contenus additionnels, c'est-à-dire quand un jeu sort, il arrive que les éditeurs décident de sortir un contenu additionnel, c'est-à-dire un niveau en plus, des personnages.
Alors, il arrive maintenant, c'est à peu près pour tous les jeux.
C'est pas faux. Ça devient une habitude. Alors, c'est d'où le fait justement que certains parlent de jeux en kit. Alors, bon, on est un peu mal placé pour parler vu qu'on a décidé de faire une émission qui est évolutive et qui est un peu en kit elle-même et donc qui est censée être en version finale dans quelques mois. Mais est-ce que du coup, pour toi, est-ce qu'on parle de jeux en kit aujourd'hui?
Bah alors oui et non, ça dépend vraiment des jeux quoi. Par exemple, moi je me souviens il y a quelques années, avant que même les DLC soient aient une telle importance comme ils peuvent en avoir aujourd'hui, il y avait Prince of Persia qui était sorti, celui en cel shading, qui était sorti sur Xbox 360, où ils nous avaient pondu un DLC qui finissait plus ou moins l'histoire parce que l'histoire était un peu laissée en suspens.
Ah, c'est marrant parce
et
que
ouais. Je l'ai jamais fait ce DLC et bon bah on sait vraiment, c'est vrai que l'histoire finissait un peu sur un cliffhanger un petit peu et voilà, et puis ils avaient été vivement critiqués à l'époque parce que justement ils avaient sorti ce DLC et puis on avait un peu l'impression qu'ils voulaient se faire de l'argent.
Non, et puis moi moi je savais pas d'ailleurs qu'il y avait eu un DLC pour ce jeu, qui est d'ailleurs pour moi un très grand jeu.
Oui, pareil.
Avec une très grande fin, vachement culottée, etc. Et donc, c'était une fin très belle, à la fois épique et romantique, etc. Donc, on ne va pas en dire plus pour ceux qui ne l'ont pas fait. Mais si vous avez une Xbox 360, ouais, on vous conseille
ou un PC.
Ou un PC. Ou une PlayStation 3, d'ailleurs. la génération 360, on va dire. On vous conseille le jeu Prince of Persia de 2008. Mais justement, ça me pose un problème, parce qu'en gros, tu m'expliques que la fin était... Moi, personnellement, je l'avais trouvé extraordinaire et tout, mais bien sûr, la plupart des joueurs avaient été frustrés, etc. Et tout. Et ça me pose toujours un problème quand on enlève un peu un côté artistique à un jeu, en le dénaturant, et après, en intégrant une nouvelle fin, etc. Il y avait eu la même chose pour Mass Effect, je crois.
Moi, ce qui m'a posé problème, c'est qu'ils sortent un DLC. S'ils n'avaient pas sorti le DLC, j'aurais été satisfait.
Oui, voilà.
Mais ils ont sorti le DLC et ils l'ont rendu un peu obligatoire d'une certaine manière, je trouve. Et moi, je n'ai pas envie de payer, 12 €. Bon, admettons, aujourd'hui, il n'est plus à ce prix-là, j'imagine.
Oui, il doit être beaucoup moins cher. Hein.
Mais voilà, j'avais été un peu frustré et je me suis dit que s'ils ont rajouté ça, c'est que quelque chose n'était pas fini.
Moi, je trouve que c'est pour... Parfois, les développeurs, les éditeurs écoutent beaucoup trop les joueurs.
Oui.
Ils ne sont pas assez confiants et ça me pose vraiment beaucoup de problèmes sur le plan artistique. Parce que c'est un peu comme si un chanteur changeait les paroles de sa chanson ou la composition de sa chanson parce que le public n'aimait pas, etc. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de faire. Alors, précisons quand même qu'un DLC, ça coûte entre, 3 € et ça peut monter parfois jusqu'à 20 €. Il existe même des season pass pour cumuler les DLC pendant une année en général, etc. Qui coûte en général 25 € ou par là. Je suis pas super fan du système, surtout quand ça dénature des œuvres. C'est ça que je voulais dire. C'est que par exemple, là tu me parles de Prince of Persia, mais on peut aussi citer un autre exemple, c'est Forza Motorsport 5, qui m'a posé un gros problème parce que pour info, le jeu proposait un vrai système économique culotté, c'est-à-dire on utilisait parfois de l'argent réel pour, enfin si on voulait acheter, on pouvait pas acheter toutes les voitures dans le jeu, du coup parfois il fallait soit utiliser de l'argent réel soit vraiment faire beaucoup de courses dans le jeu, etc. pour débloquer les voitures, et moi je trouvais que ça révolutionnait un peu le jeu de voiture qui était un peu dans un système un peu plan-plan, un peu ronronnant depuis quelques années, qui consistait à accumuler les voitures, 500 véhicules, etc. Faire un système de progression tout sympa pour que le joueur puisse acheter toutes les voitures, etc. Et moi je trouvais que le système économique de Forza Motorsport 5 était sympa parce que justement il replaçait la voiture au centre des débats, c'est-à-dire quand on avait une voiture on était content de l'avoir, quand on avait une voiture de luxe à 2 millions une Ferrari ou autre, on était presque aussi satisfait que dans la vraie vie limite d'avoir une Ferrari parce qu'on l'a payé à la sueur de notre volant, etc. Ouais. Et donc, peu de temps après la sortie du jeu, les développeurs qui ont été critiqués pour leur choix, etc., ont finalement fait machine arrière et ont ouvert tout le système économique du jeu, et ce qui finalement a rendu le jeu similaire au précédent. C'est pas forcément une bonne chose pour moi, parce que je trouvais qu'ils apportaient quelque chose d'intéressant finalement comme proposition dans ce genre de système économique et tout, qui peut être douteux, mais parfois il peut y avoir un intérêt artistique ou même un intérêt utilitaire. D'ailleurs, je sais que t'aimes bien les jeux épisodiques. Alors, les jeux épisodiques, on va expliquer juste ce que c'est des jeux en général, un peu comme une série télévisée, c'est-à-dire en 5 épisodes en général, quelque chose par là.
Oui, c'est ça.
Il peut y avoir plusieurs saisons. Et en gros, les jeux épisodiques, il y a un épisode qui sort tous les 2 mois, 2-3 mois.
Oui, c'est vrai. Oui, ça dépend.
Et ça a une fonction utilitaire puisque c'est un peu écrit comme une série télé. Et du coup, il y a en général un rebondissement, etc. Et c'est prenant. Et ça a une utilité. Dans le même genre de jeu utilitaire, je sais que tu n'aimes pas le système économique de Killer Instinct.
Oui.
Alors, pour information, Killer Instinct, c'est ce qu'on appelle un free-to-play. C'est-à-dire, normalement, c'est gratuit, mais avec un personnage ou deux. Et après, si on veut acheter d'autres persos ou d'autres versions du jeu, on est libre d'acheter d'autres versions du jeu et d'autres persos. Disons que c'est un peu comme si on avait une démo qui était évolutive, et ainsi de suite. Mais là où je ne suis pas d'accord avec toi, c'est que je sais que le système ne te plaît pas, mais ce que je trouve assez intéressant, c'est que quand tu achètes la dernière saison de Killer Instinct...
Parce qu'il coûte combien ?
Alors, ça dépend. Ça doit être en général 39 € la saison.
Ouais, d'accord.
Chaque année ou quelque chose de ce genre.
D'accord.
Mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages parfois apparaissent l'un après l'autre. Et genre, pour les gens qui sont un peu nuls en jeu de combat comme toi, ça permet de pouvoir appréhender chaque personnage, de pouvoir s'entraîner, de pouvoir comprendre le système de jeu et tout. Et moi, j'avoue que lors de la sortie de Killer Instinct, j'avais été plutôt intrigué par le fait d'avoir un pendant une saison, par exemple, seulement 8 personnages qu'on pouvait justement maîtriser plus ou moins bien, etc. En attendant éventuellement, si on avait envie ou pas, la prochaine saison, sachant que je crois qu'en plus le jeu est compatible d'une saison à l'autre, c'est-à-dire que t'es pas obligé d'acheter... Bah oui, mais tu sais, il y a des éditeurs, ils se priveraient pas. Hein.
Oui, c'est un sale problème. Moi, je trouve que 40€ pour une saison, et bon, si t'es fan du jeu et que tu dois payer 40€ par an pour pouvoir continuer à jouer avec tes personnages préférés, je trouve ça un peu culotté. Comme...
Oui, mais après, c'est tout le problème du jeu vidéo actuel, c'est que les prix sont toujours relatifs. C'est que c'est 40€, mais par exemple, moi, j'ai acheté la saison 2 de Killer Instinct récemment, et je l'ai acheté parce qu'elle était en promo à 15€ ou 20€, ce qui fait une promo à 50%, et finalement, à la fin, si tu veux, tu peux avoir 3 saisons de Killer Instinct. Si t'es patient, et si t'es pas... Par exemple, toi, je sais que peut-être tu veux, si tu es abonné au Xbox Live, tu peux télécharger la saison 1 de Killer Instinct gratuitement, par exemple, maintenant. Et du coup, ça fait passer la pilule, etc. Le jeu vidéo, les prix dans le jeu vidéo, c'est parfois une question de patience. Et je pense pas que ce soit. Enfin, c'est un peu comme tous les médias d'ailleurs, hein, c'est comme les DVD, etc. Et tout. Je pense qu'on n'est pas obligé non plus d'acheter toujours son DVD ou son Blu-ray à 25€. On peut aussi attendre qu'il y ait des offres, etc. Et ça peut aussi être une bonne chose. Alors après, pour les gens qui, comme toi et moi, dans une moindre mesure, n'aiment pas les DLC, il y a toujours certains éditeurs qui font des offices d'exception. On pense à Nintendo quand même, qui même s'il est critiqué parfois, notamment pour Smash Bros, Super Smash Bros, qui est en gros le gros jeu de baston de Nintendo, qui mélange tous les personnages de l'univers de l'éditeur, c'est-à-dire Mario, Zelda...
Donkey Kong,
etc. Propose des DLC assez chers. Alors je crois que c'est.
Il existe deux versions du jeu, donc une sur Wii U et une sur 3DS. Vous avez la possibilité soit d'acheter un personnage pour une version, soit d'acheter pour les deux versions.
Donc en gros, il existe la 3DS qui est la console portable du Nintendo, ouais. C'est-à-dire que le jeu est disponible sur console portable et sur Wii U qui est la console de salon, et donc on peut acheter les DLC pour les deux versions, soit pour l'acheter pour les deux d'un coup, soit acheter juste la version Wii, soit acheter juste la version 3DS, et les prix sont différents. Et je crois que si on veut acheter pour les deux, par exemple, c'est
12€, je crois,
une dizaine d'euros, voilà, ce qui est cher pour un personnage, hein. Mais là où il y a une vraie différence par exemple avec Killer Instinct, c'est qu'à la base dans Super Smash Bros,
une trentaine de personnages disponibles de base,
oui, peut-être même plus. Ouais, je pense qu'il y en a peut-être même bien 40, ouais, 45 facile, je crois, ouais. dans mes souvenirs, et donc moi j'ai du mal un peu à comprendre les gens qui critiquent Nintendo ou même qui critiquent les DLC quand on voit qu'il y a des aventures comme celle de justement Smash Bros, où le contenu est, je pense, identique à tous les volets qu'il y a eu précédemment. Je vois pas vraiment ce qu'il y a de mal à vouloir ajouter quelques persos supplémentaires pour faire plaisir aux fans, parce qu'en plus, ouais. Nintendo, c'est pas le genre d'éditeur à sortir un jeu tous les ans, un jeu tous les deux ans. Le prochain Smash Bros n'arrivera sûrement pas avant quelques années.
La prochaine console.
Voilà, exactement, quelques années. Et donc, je pense pas que ce soit un mal en soi. Mm. D'ailleurs, Smash Bros, qui est compatible avec les Amiibo dont on parlait tout à l'heure, qui sont en quelque sorte aussi des DLC, hein, tout ce qui est Disney Infinity, Skylanders et les Amiibo, c'est-à-dire les figurines qu'on trouve en magasin dans le rayon jeux vidéo, sont en quelque sorte des DLC qui permettent de débloquer soit des petites choses, c'est le cas pour les figurines Nintendo, soit de débloquer un personnage pour les deux autres jeux, c'est-à-dire Skylanders ou Disney Infinity. Toi, je crois me souvenir que t'es pas fan du principe.
Je suis pas fan du principe. Alors je suis pas fan du principe, mais j'ai déjà trois amiibo. mais alors pourquoi ? Parce que en fait, c'est pas quelque chose qui est indispensable au jeu. Alors il y en a un qu'on m'a offert. Là où j'aime moins, c'est pour les séries comme Skylander ou Lego Infinity, c'est ça ?
Oui. Disney Infinity. Et il y a effectivement Lego Dimension.
Voilà. Et où là, ils les rendent indispensables. Donc je trouve que c'est un peu une pompe à fric, hein. Pour les parents, parce que généralement c'est des enfants qui jouent à ça, et je trouve que c'est un peu
Après, je différencierais Skylanders de Disney Infinity, parce que tu dis qu'ils les rendent indispensables, mais pour Skylanders, c'est vrai qu'il y a certains jeux, notamment le dernier sur 3DS ou même dans le jeu sur Wii U, où si on n'a pas la bonne figurine ou le bon type de figurine, on ne peut pas accéder à tel niveau
le scandale.
Ou dans le jeu 3DS qui est un jeu de course, on a juste en gros les protagonistes des figurines que l'on possède,
ce qui est effectivement
gênant. Par contre, Disney Infinity, je trouve ça déjà beaucoup plus agréable, parce que non, on n'est pas obligé d'avoir toutes les figurines, etc. Il y a à la fois les figurines des packs aventures, et donc les packs aventures eux-mêmes qui permettent de débloquer des vraies histoires de 8 heures, enfin entre ouais. 6 et 8 heures, on va dire. Et il y a les figurines bonus qui, elles, servent pour un pan du jeu, qui est la Toy Box, qui permet en fait, et qui est plutôt intéressant quand on connaît l'univers de Disney, qui permet de créer ses propres niveaux et de pouvoir, par exemple, utiliser des personnages comme Tron ou des personnages annexes comme Mulan, etc. Et aussi les personnages des précédents jeux, même si c'est le cas pour Skylanders, c'est aussi sympa dans Disney Infinity de pouvoir jouer avec les personnages des précédents jeux, c'est-à-dire le premier Disney Infinity et le deuxième qui était consacré à Marvel, et le troisième, lui, est pour sa part consacré à Star Wars. Donc, est-ce que tu aurais, après tout ce petit topo, on va dire. Ouais. Est-ce que tu aurais quelques conseils de titres pas trop chers ?
Alors, titres pas trop chers, moi, je vous conseille, bon, on parlait des soldes Steam tout à l'heure, d'attendre des soldes et d'acheter une série de titres épisodiques, comme Tales from the Borderlands, qui est juste magnifique, fantastique, vraiment, vraiment excellent, la narration est parfaite.
Mais est-ce que, parce que je sais que c'est adapté du jeu Borderlands,
ouais.
Est-ce que quelqu'un qui n'a pas forcément joué à Borderlands...
Oui, parce que c'est drôle de toute manière.
Oui, c'est ce que je me demandais.
C'est vraiment drôle. Ouais. Bon, alors c'est un peu loufoque, etc. Il joue sur l'absurdité des personnages très violents. Il tourne un peu en dérision Mad Max. Et d'accord. Cet univers, voilà, un peu post-apocalyptique. Donc c'est très drôle. Alors, en autre jeu épisodique, il y a les deux saisons de Walking Dead qui sont aussi excellents et vraiment très bien écrites. Et c'est vraiment,
moi, j'ai fait la première et c'est vrai que c'est vraiment excellent. Et honnêtement, c'est presque mieux que la série. Quoi.
Oui, la série télévisée ?
La série télévisée.
Ah bah, il n'y a pas photo. c'est écrit en fait.
C'est sympa, je trouve, la série télévisée, mais je trouve qu'il y a une émotion dans le jeu vidéo qui est particulière.
Voilà.
Et je pense que même ça, c'est fondamental, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on incarne quelqu'un, et c'est le cas notamment dans la saison 1 de Walking Dead et tout, on l'incarne, et du coup, on est plus attaché à son sort, etc. Il n'y a pas l'alternance de points de vue. Ce qui rend le média quand même, ce qui fait une vraie particularité du média, et c'est vrai que c'est assez intéressant dans Walking Dead la saison 1. Moi, j'avais été assez impressionné par ça.
Et puis c'est un genre de jeu assez accessible parce qu'en fait, il n'y a pas besoin d'être très bon avec une manette ou un clavier et une souris. C'est tout le monde peut y jouer vraiment et tout le monde peut y prendre du plaisir parce que on peut avoir l'impression, quand on ne connaît pas trop le jeu et qu'on le voit de loin, qu'on ne joue pas. Mais en fait, si, on est vraiment impliqué, aussi bien dans l'histoire que dans le gameplay.
Voilà. Donc, avant de passer à la suite, on va faire une deuxième petite pause. Cette fois, on va s'écouter Cornucopia de Serge Tankian, que tout le monde connaît bien, puisque c'est un chanteur de un de mes groupes préférés, System of a Down. Et voilà.
flicker all the things that are so beautiful inside, where we compose the calamities for all to abide. Microcosm, macrocosm, we're the same. What a lame game. You think we're extraordinary, believing and seeing, realizing the imaginary. Don't you, yes, I think we're extraordinary, being and living, yes, I think we ought to marry. We broke our back, and away we go, to another place. I love you in the sunshine, you chase the moon with a spear. I pray that you will be all mine, you foam at the mouth and disappear.
Voilà, c'était Cornucopia de Serge Tankian, et on se retrouve pour la troisième et dernière partie de l'émission, une partie un peu spéciale vu qu'on quitte un peu le débat du prix du jeu vidéo pour s'intéresser un peu à l'actualité, au top, au flop, éventuellement des sorties, si on a le temps. Si on n'a pas le temps, c'est pas grave. Mais on va d'abord passer à un petit top, un petit flop de Philippe. Je sais pas si tu as quelque chose à nous conseiller, que tu as joué récemment, c'est-à-dire le mois dernier en général ou un peu avant.
Alors, j'ai découvert ce mois-ci.
Sachant, attends, petite précision, ouais. Sachant que ça peut aussi concerner parfois un peu tout ce qui est un peu culture geek ou autre, c'est-à-dire ça peut être un peu multimédia, ça peut être un film, ça peut être un album, etc. Donc, je sais pas, qu'est-ce que tu nous proposes du coup ?
Alors, du coup, alors, je vais changer un peu mon fusil d'épaule. si tu me donnes plus de liberté comme ça, j'avais prévu plusieurs choses. Et alors, j'ai pu voir le dernier Tarantino, qui pour moi a été fantastique. Et j'adore Tarantino. Donc, j'étais très satisfait de voir ce nouveau film qui s'appelle Les 8 salopards et que je conseille vivement d'aller voir. Donc voilà, ça c'est mon petit top.
Ça m'intéresse parce que je ne l'ai pas encore vu.
Et bah, il faut que tu ailles le voir parce que c'est très très bien fait. Alors, j'ai parlé avec plusieurs personnes du film qu'il avait vu ou qui en avaient entendu parler. Et le même son de cloche revient pour tout le monde, c'est le début est long. Alors oui, le début est long, désolé, ce n'est pas un film produit par Disney. donc forcément, il y a une petite installation, il faut que ce soit construit, que les personnages soient développés. Alors, beaucoup de personnes n'ont pas l'habitude de voir ce genre de choses. Mais...
Non, mais ça arrive souvent. Les gens ne se posent pas assez souvent la question, selon moi, de pourquoi est-ce qu'un film peut être long, peut être ennuyeux. Il y a du moins, le cinéma, ce n'est pas juste de l'amusement. Ça peut aussi être des réflexions, etc. Et c'est vrai qu'il y a des moments, moi, je me souviens quand j'étais en école de cinéma, pour info, j'avais vu Shame. On nous avait dit de voir Shame de Steve McQueen, qui est un excellent réalisateur, qui a aussi fait 12 Years a Slave,
oui.
Qui a été oscarisé, etc. Et y a, dans ces films, en général, il y a des passages un peu longs, un peu longués, etc. Et les gens, je me rappelle de mes camarades à l'époque, n'aimaient pas trop le film. Mais il faut se poser la question, à savoir que dans Shame, c'était l'addiction sexuelle, le thème. Et aussi, c'était pour refléter le manque, tout simplement, du héros. Les intentions artistiques, parfois, passent par là, comme tu dis, c'est ouais. Le développement des personnages et tout. Mais en tout cas, pour moi, c'est noté, parce que je suis intrigué, justement, apparemment, c'est un... J'ai aussi entendu dire que c'était un retour aux sources. Donc pourquoi pas hein, après.
Mais, du coup, ça me donne envie de revoir Reservoir Dogs, que je n'ai vu qu'une fois. Et j'ai envie d'un peu de comparer les deux, voir l'évolution.
Non, mais ce que j'ai entendu que c'était intéressant de pouvoir comparer. Est-ce que tu as un deuxième truc, un deuxième flop, un deuxième.
Et alors, j'ai.
Un deuxième top.
J'ai un deuxième top, mais on peut croire que c'est un flop. Il a été annoncé le prix de l'Oculus Rift.
Ah oui. pour ceux qui ne savent pas, l'Oculus Rift, c'est un peu le futur de jeux vidéo, c'est le casque de réalité virtuelle. C'est un casque qu'on aura sur la tête. et qui en gros nous permettra d'être immergé encore plus profondément dans le jeu. Tous les constructeurs sortent un peu leur modèle, et Oculus Rift c'est le modèle de dessiné au PC, on va dire.
Oui, voilà, c'est voilà, ça. C'est un peu le premier modèle qui a été annoncé et qui est très attendu. Il est annoncé auprès de à peu près 800 euros, je crois, tout le genre.
699 euros.
Et voilà, je suis très content parce que à ce prix-là, il n'y aura pas beaucoup de monde qui vont l'acheter et les développeurs ne vont pas vouloir développer des jeux là-dessus. Et je suis content parce qu'on ne va pas avoir des jeux imposés où pour pouvoir en profiter au maximum, il faudra avoir l'Oculus Rift.
Surtout que d'après ce que j'ai compris, il faut aussi avoir le PC qui fait
tourner
les...
Oui, c'est ça, en plus, voilà, faut avoir
les choses, etc. Et du coup, la facture s'annonce salée. Hein.
Non, mais voilà. Donc bon, je suis content, je suis heureux, ça va être trop cher pour, et ça ne va pas marcher. Très bien, je suis content.
Alors, moi... pour ce qui est de mes top et flop, alors le top, c'est vraiment un gros coup de cœur de ces derniers mois, c'est Life is Strange, un jeu édité par Square Enix et développé par un studio français, Dontnod. Le jeu est sorti en version boîte le 22 janvier. Il est initialement sorti l'an dernier, mais là il sort en version physique. Il était sorti sur les plateformes de téléchargement, justement, et il sort en version boîte en semi-collector, on va dire, c'est-à-dire avec un petit artbook, mais surtout la bande originale du jeu qui est assez incroyable. C'est des morceaux folk, des morceaux rock. Il y a notamment, je crois, le leader du groupe Sid Matters qui participe à la bande originale. Et en plus, il y a des commentaires des développeurs. Tout ça pour 35 euros, ce qui reste justement dans le thème de l'émission. Ouais. Je me suis dit, un petit jeu pas trop cher, avec une belle édition, apparemment. Et le jeu est assez extraordinaire. Alors pour info, c'est un jeu épisodique où on contrôle Max Caulfield. C'est une jeune lycéenne, une jeune étudiante qui un jour, à l'interclasse, se retrouve à aller dans les toilettes de son établissement. Elle fait des études de photographie. Là, elle voit un papillon bleu, elle le prend en photo, et au même moment, il y a une jeune femme qui rentre avec un jeune homme, et il y a une altercation, et le jeune homme tue la jeune femme, l'étudiante. Et c'est là où Max se rend compte qu'elle peut remonter le temps de quelques secondes, et elle va sauver la fille aux cheveux bleus. Mmh. C'est assez touchant parce que il y a un vrai discours, il y a un vrai fond. Ça révolutionne pour moi vraiment le jeu épisodique, parce qu'il y a un vrai, ils utilisent vraiment le format pour proposer un discours sur la responsabilité. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le joueur peut revenir sur ses choix. Etc. C'est ce qui change tout par rapport au jeu épisodique habituel, qui en général vous propose de faire des choix mais pas de revenir dessus et tout. Là, on peut revenir sur nos choix pour voir les conséquences à court terme de chaque choix, et donc on évolue avec Max dans une vie de teenager américain qui est assez géniale, parce que ça nous ramène un peu à notre adolescence à nous aussi. C'est-à-dire,
pas trop cliché.
C'est cliché, mais c'est cliché un peu. C'est cliché, mais on est bien, tu vois.
D'accord.
C'est... Au début, je me disais que c'était un peu cliché, la vie du teenager américain et tout, mais finalement, on se dit, ouais, il fume des pétards, etc. Ils écoutent de la musique folk en acoustique, allongée. C'est assez bizarre. C'est un espèce de trip nostalgique assez étrange. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce qui est assez beau dans l'histoire, c'est que la fille aux cheveux bleus qu'elle sauve, c'est son ancienne amie d'enfance. Et du coup, elle va profiter du fait de l'avoir sauvée pour renouer les liens. Et au même moment, et là c'est parce qu'il y a une grosse inspiration de Twin Peaks, la série de David Lynch qui est début des années 90, il faut savoir que son amie, du coup, l'amie de Max qui s'appelle Chloé, a perdu l'amie qui avait remplacé Max dans son cœur, c'est-à-dire Rachel Amber dans le jeu. Elle est disparue et personne n'a de nouvelles d'elle, et du coup c'est à la fois un jeu d'enquête, un jeu sur l'amitié, etc. C'est vraiment un beau jeu. C'est pour moi un très, très gros coup de cœur de ces derniers mois. Et le flop, par contre, c'est Rise of the Tomb Raider qui vient de sortir sur PC et qui est avant sorti sur Xbox One, et qui pour moi est une petite déception parce que c'est un peu tout ce que j'aime pas trop dans le jeu vidéo actuel, c'est-à-dire ça a ni queue ni tête, on va dire, à la fois dans le fond, dans la forme, voir Lara continuer à envoyer des flèches sur des cordes pour progresser n'importe comment, etc. C'est un peu un côté nanar, je trouve. Et même dans le fond, je pense qu'il y avait peut-être un désir de parler de sujets plus graves, parce que quand on voit que le jeu commence en Syrie et que tout de suite après il passe à autre chose, mais il continue à parler fréquemment de prophètes, etc. Je pense qu'il y avait un discours qui est sur le sectarisme, etc., qui aurait pu être intéressant et qui est pas vraiment qui est finalement plutôt maladroit, je trouve, ou pas très bien exploité, et surtout sur Xbox One ou sur PC, je trouve que le jeu n'a pas vraiment évolué par rapport au précédent. Alors autant sur 360, sur PlayStation 3, sur etc., ça pourrait avoir un intérêt pour ceux qui ont aimé le précédent ludiquement, autant sur Xbox One j'étais déçu de voir qu'il n'y a pas de majeure différence entre celui-là et le précédent. C'est une petite évolution dans la continuité, mais je m'attendais à quelque chose de beaucoup plus péchu et tout, surtout que la première heure impressionne, ouais. Puisqu'on peut, on est vraiment... c'est Lara Croft, elle est un peu malmenée par les conditions climatiques, partout. Elle a des difficultés à marcher dans la neige et tout, ce qui peut laisser penser justement à un système de jeu sympa, etc. Et finalement, bah, on se rend compte que c'est beaucoup plus classique qu'on le pense. Mais toi qui n'aimes pas les DLC,
ouais.
Il y a un DLC qui apparemment est sorti et qui permet de contrôler le froid de l'héroïne, etc. Enfin, d'avoir un mode, je crois que c'est le mode endurance ou mode survivant, je sais plus, où en gros le jeu est beaucoup plus dur et où il faut, en plus de l'aventure normale, il faut contrôler justement le froid sibérien, parce que l'aventure se passe la majeure partie du temps en Sibérie. D'accord. Et donc peut-être que je me dis, peut-être le jeu est plus intéressant
Pourquoi ils n'ont pas intégré ça au jeu?
Ah ben ça c'est toujours les grandes questions.
C'est un DLC gratuit ou payant?
Je sais pas. C'est pas impossible qu'il soit gratuit.
C'est pas impossible qu'il soit payant.
C'est pas impossible qu'il soit payant, exactement. c'est ce qu'on peut se dire.
Ouais, ben moi j'avais un peu joué à Rise of the Tomb Raider à la Paris Games Week. Une démo d'une vingtaine de minutes où on faut jouer avec les niveaux d'eau, etc. En 20 minutes, j'avais trouvé que ça se répétait. Donc je sais pas si c'est un sentiment qu'on peut avoir sur tout le jeu.
Moi je trouve que c'est un peu trop dans la continuité du précédent. C'est un jeu à la fois généreux dans le sens où voilà, comme tu dis, il y a beaucoup de tombeaux, beaucoup d'énigmes. Il y a une vraie partie exploration, etc. Ainsi de suite. Mais moi je suis un peu déçu dans le sens où c'est un peu trop scolaire quoi. Mais ça c'est un problème. Moi il y a un moment où faut dire si les jeux canadiens. c'est plus possible, toutes ces entreprises à Montréal qui font des jeux, c'est toujours des jeux sympas mais un peu nuls quoi. Enfin ouais. Je veux dire c'est ce que
ça
j'appelle des jeux
rien,
non mais c'est ce que j'appelle des jeux scolaires, c'est-à-dire des jeux sans vraie intention artistique. C'est des jeux qui sont faits pour divertir, alors parfois ça divertit plutôt bien parce que après c'est pas un calvaire Tomb Raider non plus, mais ça manque de voilà, comme on disait tout à l'heure, Prince of Persia à l'époque, je crois que d'ailleurs qu'il avait été développé au Canada, mais c'est parce que le jeu vidéo a évolué aussi, avait été culotté par rapport à sa fin, etc. Et c'est un truc qu'on ne retrouve plus vraiment aujourd'hui, et je trouve ça un peu regrettable. Enfin bon, tout ça pour dire que Rise of the Tomb Raider, c'est sympa, mais à la limite, je dirais plutôt sur 360. Et sinon, faut vraiment avoir aimé le précédent et être conscient qu'on rentre dans un vrai prolongement, pas forcément une évolution très très marquée. Alors pour les sorties du mois, juste quelques trucs comme ça, juste pour
à la volée.
Montrer, voilà exactement, à la volée, pour montrer un peu ce qui peut vous attendre à la fois le mois prochain et dans vos boutiques. Alors le 5 février, il y a XCOM 2 sur PC, je sais que ça peut peut-être t'intéresser.
Non.
Mais
c'est
autre
tour
chose,
par tour,
autre
ça
chose,
m'intéresse pas.
Autre chose qui t'intéresse le 5 février, c'est, et là je pense que ça peut t'intéresser, c'est le dernier Naruto.
Bah, j'ai un peu lâché Naruto. Hein.
Mais justement, moi ce que je trouve pas mal avec Naruto, c'est que même quand on a lâché, moi je ne suis plus, mais je suis qu'à travers les jeux.
Ouais.
Et je trouve ça justement très bien parce que ça évite de se taper 25
hors série.
150 épisodes d'un coup, le jeu résumé en une quinzaine d'heures et je trouve ça très émouvant. Alors moi je connais j'ai un ami qui suit souvent, enfin qui a toujours suivi Naruto, etc. Et qui lui considère carrément que le jeu est souvent plus émouvant et plus de par le rythme, etc. Et plus impressionnant pour les scènes d'action et tout, parce que Naruto c'est évidemment un jeu de combat qui sort sur PlayStation 4, Xbox One et peut-être PC, je suis pas sûr, je pense. Et voilà, c'est une des grosses sorties. Mais de toute manière, dans les prochains jours, c'est surtout la 3DS qui sera à l'honneur, parce qu'on se rend compte qu'il y a pas mal de RPG. Alors le 5 février, il y a The Legend of Legacy. Le 12 février, il y a Project X Zone 2. Le 19 février, il y a Pokémon, Media Donjon Mystère, qui peut prêter à sourire, mais Pokémon, on sait tous les deux que ça reste quand même quelque chose en général relativement intéressant.
Non, mais c'est le nom aussi qui me fait rire. J'attends de voir le nom du prochain, quoi.
Et à la fin février, le 26 février, il y a aussi Bravely Second, qui est encore une fois un jeu de rôle sur 3DS. Et de toute manière, cette année, la 3DS sera normalement sous le signe des jeux de rôle. Le 4 mars, il y a Zelda Twilight Princess HD qui sort sur Wii U. Donc pour ceux qui ont une Wii U ou qui n'ont qu'une Wii U, il n'y aura justement que ça à se mettre sous la dent. Ouais. Donc il n'y a pas trop le choix, mais pour redécouvrir ce classique. Et pour les possesseurs de PlayStation 4, il y a Street Fighter V le 16 février qui sort exclusivement sur PlayStation 4 pour le moment, qui je crois est aussi prévu sur PC peut-être plus tard. Du moins,
peut-être. Mais je ne suis pas sûr.
Il y a des rumeurs, je crois. Je crois qu'il y a des rumeurs. On sait qu'en général, les rumeurs dans les jeux vidéo, ça finit souvent par se confirmer. Donc voilà, on verra le mois prochain. Parce que le mois prochain, il y a évidemment des chances pour que peut-être certaines de ces œuvres soient évoquées dans l'émission,
ouais.
Soit dans un débat, soit dans un top, un flop de moi, de toi, et oui. Peut-être même de quelqu'un d'autre, on ne sait jamais. Donc, on vous dit à plus,
à
tout simplement,
ouais.
À la prochaine, qui normalement sera dans pas si longtemps que ça. Et pour se citer, on va écouter Les gens de l'Ophophora. Quelque chose à gagner.